Ne commençons par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci tout court. Notre Dieu, nous ne pouvons que te remercier pour ton amour manifesté en ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Père éternel, tu as accepté de venir au milieu de nous jusqu'à prendre notre propre chair. Tu t'es incarné en ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Et ton amour est allé non seulement jusqu'à prendre notre corps, mais jusqu'à accepter de monter sur une croix à notre place. Payer le prix à notre place, mais en même temps, tu nous as intégrés dans cette mort. Tu nous as permis de t'accompagner jusqu'à profondeur de cette mort, tu l'as épousée. Et parce que tu as épousé cette mort, que le Père t'a ressuscité triomphalement. Et tu es assis à sa droite. Et tu nous as fait participants aussi à cette œuvre, en sorte que nous pouvons maintenant, à présent, dire aussi que nous sommes assis à la droite du Père, et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as vaincu le monde, tu as vaincu la chair, tu as vaincu la mort qui devient un tremplin pour l'éternité, mais tu as vaincu aussi l'ennemi de nos âmes. Ce matin, nous pouvons le proclamer en ton nom, en toi, nous sommes plus que vainqueurs, et le diable est vaincu. Il viendra le jour ultime où le jugement final tombera, et là, nous pouvons rentrer dans cette éternité tant voulue, lancée depuis la création du monde. Je te prie, Seigneur, de nous parler ce matin, de nous parler dans notre cœur, de devenir notre nourriture, en sorte que la compréhension cérébrale ne soit pas une prérogative, mais si tu le veux, que ce soit ainsi, mais c'est surtout notre vie de tous les jours qui doit être transformée, c'est cette connaissance que nous voulons vivre. En ton Saint nom. Amen. Alors tout d'abord, merci Toby pour ta première présidence. Enfin, et bien maintenant que tu es lancé, voilà, ça y est, le plus dur est d'être lancé, voilà. Donc merci, non, en tout cas merci beaucoup pour cet investissement qui nous réjouit et qui me réjouit moi à titre personnel. Voilà, je le dis, je suis égoïste quelque part. Eh bien, je le dis que moi, c'est une joie, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une prière que j'avais depuis pas mal de temps. Eh bien, voilà, la concrétisation commence ce matin par ta présidence. Et merci beaucoup. Notre partage de ce matin, ce sera sur la continuité de ce qu'on a évoqué il y a 15 jours. Et c'était, donc, si je me rappelle, c'est la réalité se trouve dans l'invisible, c'est-à-dire en Christ, la réalité, elle est spirituelle. Mais ses effets, on peut les voir dans notre vie de tous les jours. Mais il ne faut pas se limiter à ses effets et réduire Christ à ces effets-là. Ça, c'est, je dirais, c'est le piège humain dans lequel même le diable peut s'immiscer en sorte que nous nous attachons aux choses visibles alors qu'on oublie l'invisible. Humainement parlant, en tant qu'humain, on est, par notre âme, par notre corps, on est attiré par le visible. Tout ce qui touche nos cinq sens. Nous voulons voir des choses qui nous dépassent. Nous voulons sentir, vous voyez ? Ce n'est pas mauvais en soi, je ne suis pas en train de remettre, mais se focaliser, de faire qu'il n'y a que ça, c'est là qu'on réduit Christ à ce que nous ressentons, à ce que nous pensons. Christ est plus que ça. Nous avons lu dans Éphésiens, Colossiens, que Christ est l'aboutissement de toute chose. Il est l'origine, le cheminement et l'aboutissement de toute chose. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Tout vient de lui, par lui et pour lui. Vous voyez, ça dépasse ce que nous pensons. Et nous avons dit aussi, et c'est par conviction que je le répète, tout ce que nous voyons, c'est une information visible, une information invisible. Si nous nous voyons là, ce matin, c'est une information, ce que je vois de vous. Mais ça cache votre réalité qui me dépasse et que je ne peux retrouver qu'en étant en communion avec Christ. Et c'est là que je découvre votre réalité, vous me découvrez. Vous ne me découvrirez pas comme ça, mais c'est en Christ que nous avons de l'intérêt, c'est notre identité. Ça permet, ça doit nous enseigner pour ne pas porter un jugement sur son frère, sur sa sœur, ou même sur les êtres humains, d'une manière générale. Parce que nous nous limitons seulement à ce que nous avons de connu de la personne. Mais porter un jugement, des fois on peut même utiliser des mots sans se rendre compte. Telle personne sauvée, l'autre n'est pas sauvée, elle va au paradis, l'autre en enfer, voilà des termes qu'on utilise. Mais on ne se rend même pas compte. En faisant ainsi, on se met l'égal de Dieu. Sans connaître la réalité de la personne qui est en face de moi. Le Seigneur, quand il dit, quand on frappe sur la joue gauche, tend les joues droites. C'était justement pour nous dire, il faut aimer son ennemi, pas dans le sens être naïf. C'est pas ça du tout. Mais bien sûr, si quelqu'un m'attaque, je vais me défendre. C'est tout à fait naturel. Mais le fait de nous dire, aimer son ennemi, c'est de nous dire, ne vous limitez pas. Seulement ce que vous voyez de la personne, par ses gestes, par sa façon de penser, par son côté négatif, etc. Non, cette personne-là, comme chacun de nous, possède le souffle de Dieu, qui est dans la Genèse. Et juste sur ce principe-là, je ne peux pas rejeter ou porter un jugement sur autrui, parce que je porte un jugement sur le souffle de Dieu même lui-même. Alors, je reviens et je vais évoquer avec vous un passage connu dans le Nouveau Testament. Et souvent, ça vient dans une trentaine d'années que je suis chrétien, et j'ai entendu dès le départ, ce que j'appelle le marketing spirituel. Dès le départ, on cherche à toucher les cœurs. Et souvent, pour toucher les cœurs, on cherche les moyens pour toucher, je dirais, le point faible chez les personnes pour les attirer. Encore une fois, le Seigneur peut le permettre. Le Seigneur peut permettre qu'on passe par des difficultés. Souvent, le Seigneur m'a parlé quand j'étais dans la difficulté. Quand j'étais vraiment au fond du trou, c'est à ce moment-là que je me suis rendu disponible pour que le Seigneur me parle. Donc, je ne suis pas en train de remettre en question la situation dans laquelle nous pouvons être ou le monde peut être pour qu'on puisse parler de l'Évangile. Mais communiquer seulement sur ce qui peut toucher nos sensations, communiquer seulement sur les miracles, connaissez seulement, c'est là où je dirais le piège, on tombe dedans, c'est quand on cherche à attirer autrui par l'extraordinaire, tout ce qui est phénomène, qui dépasse, je dirais, nos sensations. Or, ces miracles que nous trouvons dans le Nouveau Testament, nous croyons qu'ils sont passés. Et aujourd'hui aussi, encore, il y a des miracles. Mais ces miracles cachent une réalité invisible. Ces miracles est une information visible, palpable, d'une information qui se cache derrière. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce matin, et ça continuera la prochaine fois. On le fera sur 2 voire 3 dimanches. Alors le passage, c'est dans Luc chapitre 7, et nous allons lire le passage verset 11 à 23. Luc 7, 11, 23. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, terrible. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et coucha le cercueil. Ceux-ci qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean-Baptiste, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez reporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, Les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà notre passage dans Luc que nous connaissons, certainement on l'a lu au moins une fois, ou si on ne l'a pas lu, on a entendu parler. Si ça peut vous rassurer, je ne vais pas lire toutes ces feuilles-là, c'est les feuilles de trois dimanches. Voilà. Donc rassurez-vous. Voilà. Alors, si je dois résumer ce passage, donc le Seigneur a effectué un miracle auprès d'une femme veuve qui a perdu son fils qui est mort. Hop, il a ressuscité le mort. Les gens autour de lui étaient stupéfaits au point de dire, ah, ça c'est un prophète qui est au milieu de nous. D'accord? Ça a fait, je dirais, ça a fait le buzz, on va dire. Tout le monde est au courant, cette personne qui s'appelle Jésus a ressuscité un mort, donc certainement c'est quelqu'un de, voilà, quelqu'un d'extraordinaire, jusqu'à dire que c'est un prophète. Eh bien, les disciples de Jean-Baptiste sont mis au courant, ils sont partis tout au courant vers Jean-Baptiste, qui est emprisonné, si je ne me trompe pas, et lui ont rapporté ce qu'ils ont entendu. Et Jean Baptiste les renvoie voir le Seigneur pour lui dire, es-tu celui qui doit venir, c'est-à-dire le Messie, ou on doit en attendre un autre? Le Seigneur, pendant qu'il lui posait la question, il continuait ses œuvres, et il leur répond, voilà ce que je fais. Il a cité plusieurs miracles, c'est ces miracles-là que nous étudierons les dimanches prochains, et il a terminé par dire, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais, c'est un passage, ce que je partagerai avec vous, ce n'est rien d'autre qu'une étude que j'avais faite en 2010-2011. Voilà, voilà, ça ne change pas, donc je l'ai relu, et ça m'a parlé encore une fois, donc voilà, donc je vois maintenant que je peux partager avec vous. Alors d'abord, ça ne vous choque pas, ça ne vous questionne pas le fait que Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Eh bien, moi, là, quand j'ai lu ce passage-là, il y a quelques années, ça m'a choqué. Pourquoi? Mais n'oublions pas qu'il l'a baptisé. Mais ça vous questionne. Il l'a baptisé, il a dit. Et là, il le doute. Je vais envoyer quelqu'un pour savoir qui il est. En fait, on a l'impression que c'est une incertitude. Il faut prendre le texte dans son entier. C'est une apparence d'incertitude de Jean-Baptiste qui demande au Seigneur de confirmer qui il est et quelle est sa mission. Donc Jean-Baptiste fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est une apparence d'incertitude et je défends cette incertitude et je vais vous expliquer pourquoi. Car Jean-Baptiste, n'oublions pas qu'il avait reconnu le Seigneur lors du baptême dans le Jourdain, comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean, chapitre 1, verset 29. Nous pouvons peut-être croire qu'un certain doute a habité Jean-Baptiste, jusqu'au point de vouloir vérifier par ses disciples qui est ce Jésus. Mais il n'est aucunement question de doute, et je l'affirme. Car Jean-Baptiste a eu aussi une révélation de la part de Dieu quand il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est de celui-là, cette personne-là, qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous invite à lire Luc 3, chapitre 3, versets 15 et 17. Par conséquent, je pense qu'il n'y a aucun doute chez Jean-Baptiste. Mais il soulève une absence d'une partie de la réalité du Seigneur. C'est pour ça qu'il les a renvoyés le voir. Je vous explique. L'information qui manque dans ce que les disciples ont apporté à leur maître, Jean-Baptiste, se trouve dans la réponse du Seigneur à la question des deux disciples de Jean-Baptiste. Voilà la réponse qu'il leur a donnée, Jésus. Mais ils n'ont apporté qu'une partie de la réponse. Il leur a dit, allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les premières informations reçues par Jean-Baptiste, C'était seulement la sidération de la foule. C'est ce qu'il a fait, le Seigneur. Si vous lisez le début de ce passage, il est dit que les gens étaient étonnés autour. Ils étaient tellement étonnés qu'ils disaient « Cette personne-là ne peut être qu'un prophète. » Mais ce qu'ils ont apporté à Jean-Baptiste, c'est un faiseur de miracles au point d'être prophète. Mais ils ne lui ont pas apporté que la bonne nouvelle est annoncée. Et c'est pour cette raison que Jean-Baptiste les renvoie pour qu'il vous donne la vérité en entier. À la lecture de la réponse du Seigneur, nous remarquons que Jean-Baptiste a eu connaissance des faits miraculeux et de l'admiration de la foule, mais les disciples ont omis de lui transmettre la réalité invisible et qu'ils étaient incapables de détecter ou de connaître, et qui est le plus grand miracle annoncé et apporté par le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En envoyant ses disciples, Jean-Baptiste veut leur ouvrir les yeux, et je le crois, afin qu'ils réalisent que le Seigneur Jésus dépasse la perception sensorielle et qu'il ne se limite pas à ce que les gens pensent de lui, ce qu'ils disent de lui, mais qu'ils réalisent qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour qu'ils se réalisent eux-mêmes en posant la question à Jésus qu'il est le Christ, mais pas seulement celui qui a ressuscité le mort. La même situation est relatée dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 2 à 6, que vous connaissez, concernant un entretien entre le Seigneur et un pharisien du nom de Nicodème. Ce dernier, s'adressant au Seigneur, lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » En effet, Nicodème reconnaissait le Seigneur à travers ses faits et gestes uniquement comme les disciples de Jean-Baptiste. Et peut-être comme nous en tant que chrétiens. Mais le Seigneur l'interpelle en lui rappelant la nécessité de la nouvelle naissance. Je parle de Nicodème. Cette nouvelle naissance correspond à la bonne nouvelle. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà l'information qui manquait aux disciples de Jean-Baptiste. À travers Jean-Baptiste, nous réalisons que nous ne devons pas réduire le Seigneur à quelqu'un qui accomplit des phénomènes miraculeux. Je ne les remets pas en question, ça fait partie, mais il ne faut pas réduire seulement à ça. Ou à un simple prophète qui revisite son peuple. C'est une recommandation qui concerne tous les chrétiens, et nous particulièrement, qui risquons de réduire le Seigneur à ce qu'il fait, alors que nous devons chercher à connaître qui il est. En lisant derrière les lignes, et c'est ça, on dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous parle derrière les lignes, entre les lignes, au-delà, dans notre être intérieur, mais pas seulement en nous focalisant sur les mots, sur les lettres et les phrases. En lisant derrière les lignes, la mission confiée par Jean-Baptiste à ses disciples nous dévoile un autre enseignement que nous pouvons traduire ainsi. Et je vous livre ce possible questionnement. Jean-Baptiste est informé de ce que pense le peuple du Seigneur. Un prophète envoyé par Dieu pour revisiter son peuple. Voilà ce qu'il a reçu comme information. En opérant des miracles et des guérisons. Jean-Baptiste se hâte d'envoyer alors deux d'entre eux auprès du Seigneur pour lui demander d'annoncer réellement qui il est au-delà des miracles et des guérisons, qui ne sont que les effets visibles, l'information visible de son œuvre spirituelle invisible. Ceci afin que le peuple et les disciples de Jean ne limitent pas à ce qu'ils voient de lui, mais qu'ils cherchent à connaître qui il est. Voilà, en paraphrasant un peu ce questionnement de Jean-Baptiste, et on se rend compte qu'il n'y avait pas de doute chez lui. Mais seulement, il demande un approfondissement, un éclairage en envoyant ses disciples, en fait, il leur rend service. Les interrogations de Jean-Baptiste sont un éclaircissement et non pas un doute. Car ils savaient, par révélation, qui était le Seigneur. Jean-Baptiste lance un avertissement au peuple en général et à ses disciples, et à nous aussi en particulier, qui semble manifester une certaine obsession envers les manifestations surnaturelles, au détriment de la réalité invisible cachée derrière le visible. Il met l'accent sur l'aspect invisible de la mission du Seigneur en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seule cette réalité peut glorifier le Créateur, car notre corps, même guéri, il disparaîtra. Seule cette réalité invisible peut glorifier le Créateur et libérer l'homme pour qu'il puisse débuter sa métamorphose en grandissant dans une communion spirituelle avec son Créateur. La crainte de Dieu et la manifestation de sa gloire ne sont pas liées uniquement aux manifestations visibles, mais d'abord et surtout à l'œuvre invisible qui se fait en l'être intérieur, en chacun de nous. Une œuvre qui peut s'opérer à travers une manifestation surnaturelle visible, dans sa grâce, le Seigneur le permet, et merci Seigneur. Mais il ne faut surtout pas en faire une règle générale, voulue par le Créateur ou pas. Le Seigneur peut permettre que nous vivions en communion avec lui, dans une situation difficile dans notre corps. Oui, dans une situation difficile dans la société. Ça fait partie, mais ne réduisons pas le chrétien à celui qui est épanoui dans la société, dans son corps, qui n'a pas besoin d'argent, je ne sais quoi. Voilà cette définition humaine qui altère la parole de Dieu. Reprenons la réponse du Seigneur aux deux disciples de Jean-Baptiste. À l'heure même, quand ils lui ont posé la question, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez, apportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles le voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Et il termine par « La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Le Seigneur répond et agit en même temps. À l'heure même, oui. À l'heure même, c'est pas anodin. À l'heure même, le Seigneur, il répond dans l'action. Souvent, quand on dit, mais je veux attendre que le Seigneur me parle pour faire quelque chose. Non, j'avance et moi, en même temps, j'apprends. Oui, c'est ça. En fait, c'est presque ce que j'ai envie de dire. Le Seigneur, il nous accompagne et il nous apprend par l'erreur. À l'heure même, quand il répond, il est dans l'action. Le Seigneur, c'est pas seulement la parole, l'action. Et l'action est une réponse. Oui, c'est pour ça écrit à l'heure même. Le Seigneur répond, agit, explique dans l'action. C'est en faisant qu'il répond aux disciples. C'est dans le mouvement, à travers la pratique et l'expérience que le Seigneur parle pour nous éclairer. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles, etc., etc. Le Seigneur est toujours à l'œuvre, car il est la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. C'est pourquoi durant notre communion journalière avec le Seigneur, et plus précisément, quand nous nous adressons à lui, nous réalisons qu'il est déjà en action. Qu'il est déjà en action. Et notre prière, ce n'est qu'elle ne devient plus la cause, elle devient la conséquence. En fait, c'est la confirmation de ce qu'il est en train de faire. Notre prière devient une proclamation de ce qui va arriver, plus qu'une demande que cela arrive. Vous voyez, c'est complètement différent. Et là, on rentre carrément dans les profondeurs de la réalité de la prière. Si on se met à la hauteur, je dirais, au niveau vraiment spirituel pour donner un sens à la prière, la définition à la prière, c'est pas je prie pour que ça arrive, je prie parce que ça va arriver. Et là, on est dans un degré spirituel de maturité de l'apôtre Paul. Qui sais-je? Ces hommes de Dieu, de la Bible, quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour demander quelque chose. C'est en ouvrant la bouche, ils annoncent que la chose va arriver. Vous voyez la différence? Je prie pas parce que ça arrive, je prie parce que ça va arriver. Et là, on est dans une communauté avec le Seigneur, que nous avons cette conviction au fond, que quand j'annonce, j'ai presque une annonce prophétique à travers la prière. Le Seigneur, s'adressant aux deux messagers de Jean-Baptiste, leur dit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Ce n'est pas encore anodin qu'il y a la vue et l'ouïe. Ce qui correspond à l'ouïe, ce qui correspond à la vue, c'est plutôt les miracles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La vue, les sensations, c'est tout ce qui est capacité humaine. Mais il y a l'ouïe. Et l'ouïe concerne quoi? La bonne nouvelle est annoncée. En tant que chrétien, devons-nous nous limiter seulement à la vue, à ce qui nous touche, ou à l'ouïe spirituelle, la bonne nouvelle est annoncée? L'ouïe, c'est la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Le message du Seigneur est double. D'un côté, il y a le visible, le sensoriel, que nous sommes capables de comprendre, mais de l'autre côté, il y a l'invisible, la vue. L'œil ne peut pas voir, parce qu'il s'agit d'une vue intérieure spirituelle. En examinant les informations apportées à Jean-Baptiste par ses disciples, nous constatons qu'elles ne touchent qu'à la vue. Ils n'ont pas rapporté à Jean-Baptiste ce qui concerne à lui, c'est-à-dire la bonne nouvelle est annoncée. Et c'est ce qui a engendré tout naturellement une admiration de la foule qui considérait le Seigneur comme un prophète envoyé par Dieu pour revisiter son peuple. Une admiration confirmée par les disciples du Seigneur. Dans Matthieu 16, versets 13 et 14, je lis, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un prophète. » Oui. On se limite à ce que nous pouvons comprendre du Seigneur. Jean-Baptiste n'a reçu que le verso de la réalité par ses disciples. Il n'a reçu que le verso de la réalité du Seigneur et de sa mission, car il manque le recto qui correspond à la réalité invisible qui touche à la bonne nouvelle. L'information cruciale et centrale de l'œuvre du Seigneur est absente dans le message reçu par Jean-Baptiste. Les messagers, comme tout homme naturel, fixent le regard sur ce qui est accessible à nos facultés humaines en délaissant la réalité invisible qui se cache derrière l'information perceptible. En tant que chrétien et c'est humain, notre chair ne cherche qu'à être satisfaite. Mais le Seigneur veut parler à notre être intérieur. Jean-Baptiste souciait de la réalité éternelle et infinie qui se cache derrière les phénomènes perceptibles. Et c'est pour cette raison qu'il a envoyé ses deux disciples vers le Seigneur. L'inquiétude de Jean-Baptiste rejoint la parole du Seigneur qui nous rappelle la priorité de la bonne nouvelle. Dans Luc chapitre 5 verset 3, je lis « Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi » ou « Lève-toi et marche » oui. Humainement, ben bien sûr, lève-toi et marche. C'est extraordinaire. Vous rendez compte, quelqu'un qui est mort, je le vois se lever. Mais je suis, j'ai la chair de poule. Quoi. Je vois ça. Oui. Le Seigneur dit, est-ce que c'est qu'est-ce qui est le mieux? C'est ça? Je vous dis, vos péchés sont pardonnés. La chair, elle dit, le miracle. L'être intérieur dit, le péché pardonné. La véritable connaissance du Seigneur s'opère par une révélation, et nous avons besoin de révélation dans notre être intérieur. Qui ne se limite pas à la raison humaine, car celle-ci ne s'attache qu'à ce qui lui est accessible, en occultant la réalité éternelle qui dépasse nos capacités humaines. Par Jean-Baptiste, nous apprenons à connaître le Seigneur autrement que par les limites humaines, car le Seigneur dépasse ce que nous pensons de lui intellectuellement. Le Seigneur Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est le pourquoi de la création tout entière. Car tout vient de lui, par lui et pour lui. Romains 11, 36. Et comme l'apôtre Paul le déclare dans 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternelles. C'est parce que la bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée que les effets de cette annonce sont visibles à travers les miracles annoncés par le Seigneur. Fallait inverser. Parce que la bonne nouvelle est annoncée, que cette information invisible que nous ne pouvons pas toucher, elle touche notre intérieur, qu'elle devient, qu'elle se transforme en une information visible, ce sont les miracles annoncés par le Seigneur. Les liés par des esprits malins sont déliés et libérés. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Tous ces miracles-là, bien que c'est bon, c'est par grâce de Dieu, ça arrive, ce sont des principes spirituels. Dans notre marche avec le Seigneur, ces miracles-là, ce sont des principes spirituels dans notre marche avec le Seigneur. Certes, pas dans notre corps, mais dans notre marche avec le Seigneur, nous traversons ces miracles-là. Le Seigneur Jésus est l'incarnation du Verbe de Dieu, devenu homme pour guérir l'humanité entière de sa maladie principale, le péché, qui a créé un fossé entre l'homme et son Créateur. La guérison physique, et je le crois, hier, aujourd'hui et demain, il y aura toujours, et merci Seigneur, et quand je suis touché dans mon corps, je prie le Seigneur qu'il me guérisse. Et quand un frère et sœur est touché, je prie le Seigneur qu'il guérisse mon frère et ma sœur. La guérison physique, néanmoins, est l'information, c'est une information la guérison, l'information visible de la guérison spirituelle, comme le dit si bien le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 35, chapitre 4 à 6, chapitre 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. La bonne nouvelle est annoncée. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et regardez la suite. C'est marqué. Alors, oui, ça veut dire que la bonne nouvelle d'abord, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. L'interprétation de la parole de Dieu est donnée par Ésaïe. Je le répète. Il viendra lui-même et vous sauvera. La bonne nouvelle est annoncée. Alors, les yeux s'ouvriront, etc. Donc, les miracles, c'est une information visible qui est normalement la conséquence d'une guérison qui se fait au fond de soi. Les manifestations physiques de l'œuvre cachée du Seigneur sont annoncées par le Seigneur dès le début de son ministère. Dans Luc 4, versets 18 et 19, je lis « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est seulement après, il dit, le Seigneur, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors je dis à ses frères et sœurs, consciemment ou inconsciemment, qui tombent dans les entraves du marketing spirituel, annoncez la bonne nouvelle, mais n'inversez pas les choses, ne communiquez pas sur les effets, les miracles qui attirent la chair, pour aboutir des fois à des conversions de convenance, où tôt ou tard ces personnes quittent la foi chrétienne, mais annoncez la bonne nouvelle, parce que là, quand on n'a pas de certitude, et l'être humain n'aime pas les incertitudes. Si j'annonce la bonne nouvelle, il me faut quelque chose de concret. Okay? Alors je parle du miracle. Venez, je parle de vous. Le Seigneur va résoudre vos problèmes. Non, j'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ crucifié, Christ ressuscité. Il n'y a aucun autre chemin que de croire en Christ mort, ressuscité et qui règne. Sachant que les manifestations visibles sont une information perceptible d'une réalité éternelle invisible, les prochains dimanches, nous attacherons à chaque miracle proclamé, exécuté, fait par le Seigneur, opéré par le Seigneur, tels qu'ils sont annoncés dans le passage que nous avons lu, Luc 18, 21 et 22. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes malades d'infirmité, d'esprit malin. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Prochain dimanche, nous attacherons à chaque miracle et nous chercherons que le Seigneur nous parle quel est ce principe spirituel à travers ces miracles. Que le Seigneur nous aide à ne pas inverser les rôles C'est d'abord la bonne nouvelle, ce qui s'est fait dans notre cœur, c'est ce qui fait notre feu, c'est le plus grand miracle. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il peut transformer cette information invisible en nous par une information visible que nous pourrons appeler miracle. Amen.